La demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Mathieu Charrier. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous.
Qui va nous parler du dernier amour, c'est un film, hein, c'est pas sa vie. Nicolas Carreau, bonsoir.
Bonsoir.
Tu vas nous parler des manuscrits de Rimbaud. Et Vanessa Zah, bonsoir Vanessa.
Bonsoir à tous.
Qui nous embarque pour une destination qu'elle n'a pas voulu me révéler, c'est dire le niveau de préparation de cette séquence. Et notre invité, bonsoir David Funkinos.
Bonsoir.
Romancier, cinéaste, auteur d'une quinzaine de livres dont ce titre merveilleux, Qui se souvient de David Funkinos. Prix Renaudot et prix Goncourt des lycéens, c'était en 2014 pour votre roman Charlotte. Votre plus gros carton, c'est La Délicatesse.
Oui.
1,3 million d'exemplaires vendus dans le monde. C'est devenu un film avec Audrey Tautou, co-réalisé avec votre frère Stéphane. Film deux fois nommé au César. Et là, vous revenez. Votre actualité, c'est un nouveau roman chez Gallimard. Il s'appelle Deux sœurs. Allons-y direct. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que ça raconte?
Ah, c'est l'histoire, dans un premier temps, d'une rupture amoureuse qui est, je voulais décrire d'une manière extrême, vraiment très violente. C'est vraiment une dévastation. C'est l'histoire de Mathilde qui ne peut plus avancer sans sa raison d'être. Et elle va progressivement perdre pied. Et puis
sa raison d'être, c'était son mec.
Exactement. Et elle va être recueillie par sa sœur. Et donc, voilà, la deuxième partie du livre, elle se retrouve finalement à vivre dans le décor de la vie qu'elle aurait dû avoir, hein, puisque sa sœur vient d'avoir un enfant, est très heureuse en couple. Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement effroyable à l'idée, voilà, d'être face au décor de la vie qu'elle aurait dû avoir. Et elle va, on va pas raconter ce qui va se passer, non, mais elle va progressivement développer une forme de hargne.
C'est une fable, David Funkinos, ou c'est une vraie histoire?
Pour moi, c'est une vraie histoire.
Parce que je veux dire que la sœur a tout, le mari, l'enfant, le travail, l'appartement, l'autre qui a rien. On est presque chez La Fontaine.
Oui, mais j'aime bien cette idée. D'ailleurs, j'ouvre le livre en disant qu'on va être dans la tragédie et c'est un huis clos. C'est extrêmement, ça peut être considéré comme presque théâtral d'une certaine manière, puisque tous les enjeux se mettent en place pour un dénouement complexe ou dramatique.
En fait, j'ai très mal posé mes questions.
Oui, oui, c'est
Est-ce
vrai.
Est-ce que vous connaissez des gens...
Merci. Enfin, un aveu.
Oh là là.
Est-ce que vous connaissez des gens à qui c'est arrivé?
Oui, bien
des
sûr.
Des gens dévastés et détruits,
oui,
à
vraiment,
ce point.
Vraiment, bien sûr, ça peut, on connaît tous ça. Et puis, de toute façon, au-delà de la dévastation amoureuse...
Ah non, moi, j'avais jamais connu quelqu'un dévasté comme ça après une rupture amoureuse telle que vous le racontez.
Quelqu'un qui ne peut plus avancer, ouais. Mais c'est un abandon total. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement violent et définitif quand quelqu'un vous dit « je ne t'aime plus ». C'est une fatalité, on ne peut absolument pas agir contre ça. Et donc, sa souffrance va la propulser vers la nécessité de développer une seconde personnalité pour survivre.
Et puis c'est progressif, une étape en entraîne une autre aussi.
Oui, ça
c'est
m'a pas échappé. Vous savez qu'en plus, on tourne les pages.
Non, mais ce que je veux dire, au lieu de ricaner, Philippe Vandel, c'est que c'est construit de telle manière qu'on comprend et que ça devient vraisemblable parce que ça va tout doucement. C'est d'abord, elle se fait quitter, puis ensuite,
non, mais
à son
attendez,
boulot, ça
Nicolas
se passe
Carreau.
Moins bien parce qu'elle triste.
Non, mais Nicolas Carreau, vous êtes son agent, parce qu'il se trouve que j'ai lu le livre. Donc ce qui m'intéresse, c'est la réponse de David Funkinos. Même si ce que vous dites est totalement
vrai. En général, quand je fais les émissions de Philippe Vandel, il me vanne moi. Et donc ça me fait plaisir.
Je prends pour vous.
Mais moi aussi, je me suis
vanné.
Page 100, David Funkinos, vous interrogez, vous dites, est-il possible que la gentillesse soit insupportable? Et c'est une très bonne question.
Oui, c'est parce que ça.
Est-ce que parfois vous trouvez ça insupportable, vous-même, la gentillesse?
Oui, tout à fait. Et en plus, c'est vrai que dans cette situation-là, il y a quelque chose de... Voilà, tout le monde essaie d'être précautionneux. Elle est un produit explosif. Hein. C'est vrai que quelqu'un qui est en souffrance comme ça, on ne sait pas comment agir. Puis tous les amis qui viennent vous voir comme une sorte de service après-vente de la rupture, les copains qui viennent avec, ils apportent des chocolats, enfin bon, c'est totalement pathétique. Et donc, finalement, elle ne supporte pas cette bienveillance, et notamment celle de sa sœur. Quand on est en souffrance, les gens qui vont être aux premières loges de notre mal-être peuvent potentiellement devenir des boucs émissaires.
C'est vrai, Vanessa, je demande à la seule fille présente dans ce
oui,
studio,
non, parce que
c'est
les autres sont un miroir en fait, de votre souffrance, ils vous la renvoient en permanence. Puis là, sa sœur,
exactement,
tout ce qu'elle
alors qu'elle
n'a
est bienveillante.
Voilà, ouais, exactement. Ouais. Elle n'est que dans l'empathie.
Alors,
exactement.
Vous avez une drôle de vision du monde, David Funkinos, à front renversé. Vous écrivez ceci. Agathe, c'est la sœur qui a tout. Agathe possédait une indéniable aptitude au bonheur, preuve suprême. Elle travaillait dans une banque. C'est un environnement professionnel pour les gens heureux et équilibrés. Professeur de français, c'est l'autre Mathilde, c'était l'opposé, une soumission quotidienne à l'interprétation des mots, un métier qui rend instable. C'est de la provoque, c'était pour vous amuser ou vous le pensez?
Non, je pense que, enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle ressent à ce moment-là de sa vie. Elle estime que sa sœur vit dans une sorte de béatitude un peu liée à l'inculture et qu'elle, elle a trop lu. Elle dit à un moment donné que tous les malheurs pour elle viennent de la littérature.
C'est dingue
parce qu'elle est
que vous citiez ça.
De français,
parce que c'est ce que j'allais dire. Le vrai problème, c'était les livres, écrit David Funkinos. Mathilde en avait trop lu. on ne pouvait pas être heureux quand on avait trop lu.
Oui, c'est ce qu'elle pense à ce moment-là.
Mais vous, est-ce
évidemment,
que vous pensez, ça sent le vécu?
Non, moi, c'est le contraire. Les livres ont sauvé ma vie.
Ouais.
Quand j'étais à l'hôpital et gravement malade à l'âge de 16 ans, j'ai lu énormément et c'est vraiment le... Oui, c'est vraiment ce qui m'a permis de m'éveiller, de m'échapper. Mais je pense que ce qui m'intéressait, c'était que ce personnage qui est professeur de français, qui fait étudier Flaubert, l'éducation sentimentale, maîtrise parfaitement la psychologie des personnages de romans et elle-même est incapable de mettre la moindre compréhension sur son propre désarroi.
Pourquoi deux sœurs? Enfin, je veux dire, pourquoi
parce
pas
que trois sœurs, Tchekhov l'avait déjà fait.
Ouais. Ils sont deux, quoi.
Non, mais pourquoi deux sœurs?
Vous allez tellement vite que j'ai pas pu poser ma question en entier.
Et
c'est tout à votre honneur.
Si Philippe Vandel me dit que moi je vais vite,
pourquoi pas deux frères? Parce qu'évidemment, on pense à vous, à votre frère Stéphane, dont vous êtes proche et avec qui vous avez réalisé deux films. Et dans le livre, l'héroïne, c'est la cadette, comme vous. Mmh. Elle a 5-6 ans de moins que la grande sœur, comme vous avec votre frère.
Ben justement parce que j'ai un frère et c'est vrai que ça aurait été trop personnel puisque c'est quand même aussi une histoire de rivalité entre les deux sœurs.
Ouais.
Mon histoire, c'est une histoire de rupture amoureuse d'un point de vue féminin, ça aurait pu tout à fait être d'un point de vue masculin. Si j'ai opté pour une héroïne, c'est justement pour ça, pour m'éloigner
pour
de ma propre vie. Oui.
Alors je peux pas raconter la fin parce que sinon Nicolas Caro va me détester, déjà que c'est mal barré, mais est-ce que vous avez déjà eu envie de faire ça, la fin, à votre frère?
Bon, c'est glissant là.
Évidemment que non. Et je souhaite à personne ça, mais effectivement.
Attendez à connaître la fin.
Ah ben, vous avez trop envie de savoir.
Bah oui, d'accord, mais enfin, faut peut-être que je le lise pour ça.
Bon, la réponse est non.
Vous avez dit un jour. Vous avez dit un jour.
Tordu cette question quand même.
Bah oui, c'est le principe d'une question. Alors, question pas tordue du tout, mais quand même une question de grosse flemme. Vous avez dit un jour, c'est au journal Elle, que pour vous, trouver le prénom d'un personnage. C'est 90% du travail. Dans La Délicatesse, l'héroïne s'appelle Nathalie. Dans Jalouse aussi, il y a Nathalie. Et dans Deux Sœurs, il y a Mathilde Pécheux. Et dans Jalouse aussi, il y a Mathilde, la fille de Nathalie Pécheux.
Ouais, exactement.
C'est fastoche, non, votre taf?
Bah, bravo, vous êtes le seul à avoir vu tous ces liens. Je reprends les mêmes prénoms, les mêmes choses. Oui.
Pourquoi?
Je recycle.
Pour vous amuser avec la critique?
Non, pas du tout, mais j'adore c'est très important, la sonorité. Et là, au-delà du fait qu'elle ait le même nom de famille que dans mon film Jalouse, c'est vrai que Mathilde, c'est un prénom qui renvoie à Stendhal, au roman du 19e siècle, et donc elle est dans cette énergie-là. Mon héroïne n'est pas du tout moderne, et c'est aussi pour ça qu'elle n'est pas du tout en phase avec la compréhension de ce qui lui arrive, et la version moderne de cette rupture amoureuse.
Mais c'est vrai que quand on voit une Mathilde et une Agathe, parce que c'est Agathe, on imagine que c'est Agathe qui réussit, qui est à la banque.
Mais ça compte beaucoup.
Vous avez absolument raison. Pardon, j'ai le droit de faire
un moment donné, c'est vrai que je réfléchis sur l'idée de est-ce qu'une même éducation qui procure deux destins diamétralement opposés, est-ce que l'une a une aptitude au bonheur et l'autre au malheur? Et il y a quelque chose de cet ordre-là, de la comparaison tout le temps entre deux frères, deux sœurs ou les membres d'une même famille. Et c'est vrai que dans un deuxième temps, elle va considérer que sa souffrance est une injustice par rapport au bonheur de sa sœur et donc elle va réagir.
Votre premier roman, en 2002, toutes les maisons d'édition l'avaient refusé, sauf Gallimard, excusez du peu. Et vous aviez dit, si ça avait été moi, je ne l'aurais pas publié.
Mais je le pense un peu, je trouve ça toujours un peu... Mais d'ailleurs, je les déconseille, mes premiers romans. Ouais. Je les trouve trop fous, burlesques, absurdes. Et je trouve ça toujours étrange qu'un éditeur... En plus, c'était complètement fou, parce que refusé par tout le monde. Et un éditeur chez Gallimard qui tombe dessus, Jean-Marie Laclaftine, c'est exactement comme si vous alliez à une soirée et que vous prenez des râteaux toute la soirée, et à la fin de la soirée, il y a la plus belle fille qui vient vous voir.
Du coup, vous ne quitterez jamais Gallimard?
Oh bah ça, oui, non, je ne quitterai jamais Gallimard.
Je ne serai pas comme certains qui se vendent très cher.
Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est ma maison d'édition, j'aime les gens avec qui je travaille. Et c'est vrai que c'est aussi une maison qui m'a accompagné longtemps, c'est-à-dire que le premier livre qui a un petit peu marché, c'est La Délicatesse, c'était le 8e. Et puis Charlotte, quand je publie Charlotte, c'est un livre extrêmement difficile de par son sujet, de par l'écriture. C'est agréable d'être avec un éditeur qui accompagne. Philippe me fait un signe.
Oui, parce que je vous demandais si vous étiez éditeur, vous diriez quoi de celui-ci?
C'est une bonne question. En tout cas, mon éditeur, j'ai le sentiment que Gallimard, parce que quand on commence à avoir du succès, il y a certains éditeurs, je pense que je pourrais leur apporter le bottin qui me dirait super, on le publie. Et là, j'ai une vraie confiance en mon éditeur. Il était heureux aussi. Mon travail, j'aime bien aller à chaque fois explorer des nouveaux domaines. Et c'est vrai que c'est la première fois que je fais un thriller psychologique.
Vous avez déjà été retoqué ou vos textes ou on vous a déjà dit faut que tu retravailles?
Bien sûr, ça m'est arrivé. Même des romans. Alors avant La Délicatesse, ça m'est arrivé.
Non, je parle.
Refusé.
Vous avez raison. Une fois que vous avez eu. Voilà. Après La Délicatesse.
En tout cas, j'en parle avec mon éditeur et alors pas refusé, mais bien sûr, j'ai besoin d'avoir cet échange-là.
Vous avez eu les honneurs de la page. Pourquoi ça marche? Les honneurs, entre guillemets, c'est dans Libé. Claire de Varieux vous reproche d'user et d'abuser de l'adjectif bienveillant. Elle a même compté, je la cite, 14 occurrences dans un texte plutôt bref. C'est trop, c'est agaçant. Que lui répondez-vous?
D'abord, je la remercie, hein, parce qu'une page comme ça dans Libé qui est plutôt bienveillante, qui est plutôt voilà, il y a pas 15. Du tout de hein. Non mais c'est vrai, elle me reproche. Ah oui, 15, elle me reproche. Non mais vraiment, j'ai déjà été plus allumé dans Libé. Ouais. Là, je trouve qu'il est assez elle dit ce qu'elle pense, ouais. Et c'est plutôt mais j'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs
et sur le vocabulaire.
Souvent quand j'avais écrit la délicatesse, c'est vrai qu'on avait un personnage bienveillant joué par François Damiens au cinéma. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, ça veut dire qu'il est con. Alors que je trouve ça... Enfin, moi, pour moi, la bienveillance est très importante. Mais c'est un peu étonnant qu'elle dise ça sur ce livre, qui me semble être plutôt marqué par la noirceur et la psychopathie.
Vous êtes quand même très bienveillant avec elle. David Fuenkinos, avec nous, on se retrouve
vous avez pas lu
tout de suite avec la bande. Mais si, je les ai lus. Mais moi, je suis bienveillant également. Donc, je vous ferai la grâce de ne pas les citer ici. À tout de suite, on va parler de cinéma, on va parler de voyage. Je sais même pas dans quel pays on va parler de poésie.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Avec Peugeot Professionnel, vos exploits sont quotidiens.
Libérer le passage d'un simple geste vous semble impossible? Avec le Peugeot Expert et ses portes latérales coulissantes main libre, c'est possible. La porte s'ouvre automatiquement pour charger votre matériel, tout simplement.
Le Peugeot Expert Premium Pack avec navigation 3D connectée est à partir de 179€ hors taxes par mois avec 3 ans d'entretien offert. Crédit bail 36 mois 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par premier loyer 2430€ hors taxe. Détails sur professionnel.peugeot.fr.
Assistant vocal, combien coûte un vol pour New York en classe affaires?
Avec la compagnie, partez à New York en classe affaires à partir de 1200€ aller-retour.
Très drôle. Mais avec un lit parfaitement plat, c'est plus cher.
C'est 1200€.
Ok, mais avec le wifi gratuit et illimité, là c'est plus cher.
C'est 1200€.
Waouh! Incroyable.
Incroyable, adjectif, se dit d'une chose impossible mais pourtant vraie.
Dès le 6 juin, avec l'A321 Neo de la compagnie, profitez de la classe affaires à un prix incroyable. Aller-retour pour New York à partir de 1200€. Rendez-vous sur lacompagnie.com ou chez votre agent de voyage. 19h39, vous écoutez Philippe Vandel.
La suite de cette demi-heure culturelle avec Vanessa Zah, avec Nicolas Caro, avec David Fuenkinos. Rebonsoir David.
Bonsoir.
Avec Mathieu Charrier, on parlait de cinéma. Mathieu, et ce soir vous nous conseillez Vincent Lindon en Casanova.
Oui, c'est assez étonnant au premier abord. Et pourtant, ouais. Vincent Lindon se glisse parfaitement dans la peau de ce séducteur. C'est le film de Benoît Jacquot qui s'appelle Dernier Amour. Alors Casanova, je vous rappelle, c'est 142 conquêtes à son actif, chiffre validé par les historiens à partir de ses écrits. Mais un certain nombre, sans doute quand même, de femmes qui lui ont résisté, dont une en tout cas, la Charpillon, c'est ce que raconte ce film, qui commence alors que notre Casanova est en escapade en Angleterre. Il croise sur la route une femme de petite vertu, cette Charpillon, qui est jouée par Stacy Martin. Ce grand séducteur se dit qu'elle aussi, il ne devrait pas avoir trop de mal à la mettre dans son lit, sauf que, ça va se révéler beaucoup plus compliqué qu'imaginé.
Venez vous asseoir à côté de moi. Vous êtes raide dans votre fauteuil. Je ne suis pas fréquentable. Pourquoi faites-vous comme si je l'étais?
Moi non plus, je ne suis pas fréquentable. Qu'y a-t-il de si infréquentable chez vous?
Vous le savez, à moi, on ne fait pas la cour.
M'autoriseriez-vous à vous faire la cour?
Vous seriez capable de vous comporter en fiancé?
Vous la gâtez.
Et finalement, notre Casanova ne va jamais réussir à conquérir sa Charpillon, seule femme qu'il n'ait d'ailleurs sans doute jamais aimée, lui, au cours de sa vie. C'est lui qui le dit hein, dans ses mémoires, dont s'est inspiré Benoît Jacquot. Peut-être aussi finalement qu'elle était réellement amoureuse de lui et que du coup, elle ne voulait pas tout gâcher. Ou bien elle voulait tout simplement abuser de son argent. Les versions divergent. En tout cas, c'est toutes ces questions que brosse le film. Et vous êtes tombé amoureux, Philippe, de la voix de Stacy Martin.
À l'instant, elle a une voix extraordinaire.
On l'avait vu notamment dans Le Redoutable. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film sur Godard de Michel Hazanavicius, c'est elle qui jouait.
Ah oui.
Exactement.
Pourquoi dès que c'est un film sur le 18e siècle, on murmure toujours?
Non, mais là, ça se passe dans les.
Attends, j'ai une réponse. Si bien dire, il y avait même ça dans Vidocq. Tous les policiers, les mecs gueulent, et dans Vidocq, ils disaient je crois que c'est lui le coupable. Ouais.
Est-ce que je peux répondre à Nicolas Caro?
Évidemment.
En l'occurrence, ça se passe dans beaucoup de salons feutrés, et que dans les salons feutrés, la bienséance voulait qu'on ne parle pas trop fort.
Oui. Oh là là, il est bougon aujourd'hui Nicolas Caro. Alors qu'est-ce qui vous a plu vous, Mathieu Charrier, dans ce film?
Alors déjà, il faut bien le dire, voir ce Casanova qui dans l'imaginaire collectif était un tombeur contre lequel on ne pouvait pas vraiment lutter, le voir trébucher, échouer, se fatiguer à tenter de séduire cette jeune femme, C'est assez plaisant, faut bien le dire. Et puis on se rappelle du Casanova, notamment de Fellini, dans les années 70, qui montrait pour le coup un Casanova sous son jour le plus sombre. Là, Benoît Jacquot semblait prouver de la sympathie pour lui, et même, quelque part, le plaindre. C'est un point de vue que je trouve intéressant. Il y a aussi ses dialogues. Murmurer Nicolas Caro dans un français du XVIIIe siècle que l'on voit peu au cinéma. Ma seule réserve, c'est que la mise en scène, parfois, est un petit peu empoulée, un peu froide, et que tout ça manque de chair. C'est un comble pour un film qui parle de petites vertus. Mais si vous aimez le cinéma de Benoît Jacquot, si vous aimez Vincent Lindon, les films en costume, la séduction sous toutes ses formes, vous passerez un bon moment de cinéma avec ce dernier amour, signé donc Benoît Jacquot et Vincent Lindon, en tête d'affiche. D'ailleurs, Vincent Lindon, que vous ne voyez pas sur l'affiche, qui est assez rare pour être souligné, c'est-à-dire que l'affiche, vous le voyez de dos. Wow. Alors qu'un distributeur, en principe, quand il a Lindon dans son film, il se dit « je vais le mettre en gros plan », et bien là, non, il prend ce risque.
Vous dites que c'est un film en costume, ils enlèvent les costumes, ou on est juste dans « Comme les liaisons dangereuses » sur la discussion et les enjeux amoureux.
Un petit peu les costumes, mais ce n'est pas un film du tout qui tire vers l'érotisme.
Double actualité. Avec vous, David Twenkinos, on peut voir au cinéma Le Mystère Henri Pic, adaptation de votre roman qui était sorti en 2016 avec Lucchini et Camille Cotin. Le film, vous êtes allé le voir en salle, vous avez travaillé sur le projet, les deux ou rien de tout ça?
Alors, je n'ai pas travaillé sur le projet, sauf au tout départ quand j'ai cédé mes droits à Rémi Besançon, qui est un réalisateur que j'adore, qui a fait Le Premier Jour du Reste de ta vie. Et c'est vrai que j'ai découvert le film une fois qu'il était fini, et j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Bah, dans une salle, en fait, ils ont fait une projection, ils m'ont montré le film.
Ouais.
Voilà, et j'étais très très heureux, et je trouve que le film est différent en plus du livre, qui est plus choral, il y a plus d'histoire. Il a recentré sur l'enquête, sur le duo Fabrice Lucchini et Camille Cotin. Et je suis très heureux que le film marche bien parce que je trouve très réussi.
Je veux dire le sens de ma question. Il paraît que le plus jouissif, c'est d'aller voir le film en salle, pas avec des gens de la profession qui sont invités, mais avec des gens qui ont vraiment payé leur place.
Oui, mais ça m'arrive quand je fais des films. Je vais en salle, évidemment, et puis rencontrer les spectateurs. Mais,
ah bon? Vous allez dans la salle et vous dites « Eh oh, c'est moi qui ai fait le film !»
Non, mais quand on fait une tournée pour présenter le film...
Vous d'avant-première.
Oui, mais donc c'est pas des gens qui ont payé leur place.
Ah bah bien sûr que si.
Ah bon?
Mais les avant-premières,
bien sûr.
Les gens achètent leur place.
Ah, je pensais qu'ils étaient invités.
Non, ils sont pas invités, justement. Non, c'était une occasion de montrer vraiment le film, de discuter avec les... C'est vrai qu'on peut pas faire ça vraiment avec les livres. Enfin, une fois, j'étais assis dans le train à côté d'une femme qui lisait La Délicatesse.
C'est drôle.
Et donc j'étais très heureux, sauf que 10 minutes après, elle avait la bouche ouverte en train de dormir. Et je me suis dit, bon,
c'est mauvais signe.
Et vous l'avez vu, vous, Le Mystère Henri Pic?
Bien sûr, on en a parlé sur cette antenne.
Allez-y,
c'est un film très sympathique, effectivement, parce que le duo déjà Camille Cotin-Fabrice Lucchini fonctionne hyper bien. C'est Fabrice Lucchini qui a choisi Camille Cotin et qui a demandé à Rémi Besançon de la recruter, entre guillemets. Et c'est un film qui est plein d'espièglerie, qui a un petit côté comme ça, polar, thriller. Dans le monde de l'édition, vous savez, on aime bien aller dans les coulisses de ces univers, de l'édition, etc. Et là, c'est ce qui se passe. Donc c'est assez drôle, on voit un critique littéraire, un Lucchini qui est un petit peu aigri, comme Nicolas Caro aujourd'hui. Enfin voilà, c'est
qu'est-ce que vous avez contre moi?
C'est toi qui nous allume tous, on est obligé de se défendre.
J'ai allumé les films 18e, c'est rien contre toi.
Donc voilà, c'est un film qui marche très bien, je crois qu'ils sont à plus de 700 000 entrées.
Ouais, exactement.
Et c'est vrai qu'on passe un bon moment de cinéma.
Et là, vous avez un nouveau projet cinéma ou pas du tout?
Là, on est en train d'écrire un nouveau film avec mon frère, Stéphane. Ouais.
Ça va parler de quoi? De jalousie ou alors de jalousie?
De sexe.
Oh,
racontez.
Ça va vous plaire, ça? Non, mais il n'y a rien à raconter. On est vraiment au début du projet, on est en train d'écrire. Et c'est vrai que ça met beaucoup de temps. Entre La Délicatesse et Jalouse, on a mis 6 ans.
Ouais.
Donc voilà, ça mettra du temps. On ne veut pas faire un film pour faire un film. Donc voilà, on essaie de...
Vous aviez
de trouver des bonnes histoires.
Vous aviez démarré dans le cinéma avec votre frère. Vous aviez réalisé un court-métrage sur les pieds.
Oui.
Et vous vous souvenez ce que vous aviez dit à l'époque?
Non.
Vous avez dit, j'avais adoré, vous aviez anticipé les critiques, vous avez dit, il y a tellement d'écrivains qui font de mauvais films, je vois pas pourquoi je participerai pas à ce beau mouvement.
Oui, mais je me suis accompagné de mon frère, alors ça va. Mais c'est surtout qu'un film sur les pieds, on avait envie de filmer en plus des acteurs connus. Quoi.
Mais votre frère, faut quand même expliquer aux auditeurs que c'est quelqu'un qui baigne dans le cinéma depuis très longtemps, qui a été
directeur de casting.
Il sait ce qu'il fait. Quand vous dites, je me suis accompagné de mon frère, vous êtes bien entouré.
Oui, c'est ça. Je me serais pas lancé moi dans le cinéma seul. C'est vrai qu'on est un duo.
Voilà, on va parler de poésie, on va parler de voyage avec David Twenkinos juste après ça.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Aujourd'hui, je suis allé faire le plein. Mais si je vous dis pas un plein de quoi, là, c'est le vide. Un plein de course, utile. Un plein d'air pur, bucolique. Ou un plein d'essence. Moins poétique, hein?
Avec Nissan, plus besoin de passer à la pompe pour faire le plein. La Nissan Leaf 100% électrique d'occasion est à seulement 99 € par mois. Et jusqu'au 31 mars, pendant la quinzaine de l'occasion, découvrez d'autres offres exceptionnelles.
Nissan, innovez autrement.
Leaf Visia 24 kWh, occasion 3 ans, LLD premier loyer 5 000 €, puis 48 loyers 99 € si accordiac. Détail Nissan.fr.
19h46, vous écoutez toujours Philippe Vandel.
Suite et fin de la demi-heure culturelle de ce 18-20 avec notre invité David Fuenquinos. Deux sœurs, elles ne sont pas invitées, c'est le titre du roman David Fuenquinos. Mathieu Charrier qui a parlé, Vanessa Zah qui va parler mais je ne sais pas quoi. Et Nicolas Carreau, ce soir, vous avez des yeux gourmands, vous nous avez apporté un trésor littéraire et je pèse mes mots, même le mot peser prend tout son sens.
Ben oui, regardez, ça c'est magnifique. Encore un coup des éditions des Saint-Père. Ils publient régulièrement des manuscrits de grands auteurs, des facsimilés, c'est-à-dire des copies parfaites. Dans leur catalogue, on trouve déjà Jules Verne, Fitzgerald, Apollinaire, Alice au Pays des Merveilles, j'en passe.
Moi j'ai le scénario original, enfin facsimilé, d'Abou de Souf de Godard et c'est un chef-d'œuvre, une merveille.
Et voici le nouveau bijou, les manuscrits de Rimbaud. Donc c'est de la main de Rimbaud, parfois c'est l'écriture de Verlaine comme pour Le bateau ivre ou Tête de faune. Les originaux ont disparu, mais Verlaine en avait fait des copies. Et ils sont dans le recueil, il y a les illuminations évidemment, il y a des dessins aussi, il y a quatre versions du Cœur supplicié, on voit comment il a travaillé, regardez-moi ça, l'écriture est très claire en plus. Donc on peut lire à même le manuscrit, le poème roman, tout le monde connaît, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, un beau soir... Foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme les paupières. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Et bien ça, on peut le lire directement de la main de Rimbaud. Ophélie aussi, sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles.
Mais ce sont des documents de travail, on voit les ratures, ou est-ce qu'il a tout recopié, ou tout a été recopié au propre et y a parce que ce n'est pas Proust, ce n'est pas les paroles de Proust.
Il y a aussi des poèmes qui ont été recopiés par Verlaine, par exemple Le bateau ivre, qui a été recopié par Verlaine parce que la version Rimbaud a disparu. Mais sinon, c'est lui. Oui, on voit le travail, même si il y a aussi des. Il y en a beaucoup qui sont recopiés, qui sont très propres. Mais là, regardez, par exemple, en ouvrant au hasard, on croise toute une strophe raturée, comme ça. Et il y a 330 pages, quand même. Ouais. Vous avez de quoi lire. Il n'y a pas que des poèmes, il y a des dessins aussi de Verlaine qui dessine Rimbaud. Il y a un beau portrait crayonné. Sur un autre, on voit Rimbaud accoudé au bar en train de fumer la pipe devant une bouteille d'alcool. C'est du facsimilé, donc on a vraiment l'impression d'avoir l'original sous les yeux. C'est assez émouvant pour les fans de Rimbaud, mais si on ne le connaît pas, c'est aussi une bonne manière de le découvrir. C'est pas toujours le cas avec le manuscrit, parce que parfois c'est vraiment pour les spécialistes, c'est des écritures très petites, indéchiffrables. Là on peut le lire donc directement à la source, et c'est quand même génial de découvrir un poète avec son écriture manuscrite plutôt qu'imprimée dans un recueil.
Et alors là vous m'avez fait une relance, ça me rappelle Automoto, ma phrase c'est la suivante: mais la qualité a un prix.
Mais oui. 180 euros quand même.
Ah oui, ah
oui, oui, mais c'est magnifique.
Mais c'est un tirage limité, grand format, coffret et tout, numéroté. Puis bon, c'est sublime, quoi.
Vous le regardiez avec des yeux gourmands, vous aussi, David Fuenquinos.
C'est vraiment sublime, on a l'impression d'être au plus proche de Rimbaud. Et de toute façon, tout ce que fait les éditions des Saint-Père, c'est sublime. Moi, j'ai Le Voyage au Beau de la Nuit et aussi Alice au Pays des Merveilles.
Avec des dessins ?
Avec des dessins, voilà, avec le texte original. C'est vraiment un objet qui se regarde comme un musée.
Ils ne sont pas nombreux. Il y a Jessica Nelson qui s'occupe de ça là-bas. C'est des passionnés. Vraiment, c'est admirable ce qu'ils font. C'est en plus une sorte de conservatoire de ces manuscrits. Ça permet de les disséminer un peu partout et de les garder finalement.
Donc je vais le répéter, les manuscrits de Rimbaud, c'est aux éditions des Saint-Père. Merci beaucoup Nicolas. Je me tourne vers vous Vanessa. Vous nous avez préparé un voyage culturel en Europe. Mais moi, je n'ai pas le droit d'en savoir plus. Ni personne d'ailleurs ici à cette table.
Personne. Il faut que ce soit David qui devine le pays dans lequel on va partir. Mais surtout la région. Donc je vous donne trois indices. C'est le berceau d'un mouvement artistique qui fête ses 100 ans cette année. C'est le poumon vert de ce pays.
Le quoi, pardon ?
Le poumon vert de ce pays.
Okay. Comme un poumon, mais qui serait vert.
Cette région est aussi un état. Là, je commence à vous aider, là. Bon, Goethe, Schiller,
je dois trouver. Bach,
Liszt, Wagner, Schumann.
Les 100 ans, je pensais que c'était Bauhaus.
C'est l'école d'architecture.
Donc, c'est autour de Weimar.
Autour de Weimar. Vous savez comment s'appelle cette région ?
Oui, je sais. La
Thuringe.
Voilà.
Thuringen.
Oui, exactement.
La Thuringe. Ouais. Voilà. Et donc, en effet, elle a attiré beaucoup d'artistes. Et c'est un des nouveaux Länder. C'est ça que je parlais d'État, donc de l'Allemagne. Donc, vous parliez de Weimar. Eh bien, Weimar a vu naître en 1919. Donc, un nouveau mouvement, celui donc du Bauhaus, qui veut dire littéralement maison de construction. Et ce courant a pu voir le jour grâce au contexte politique de l'époque, la République de Weimar, qui a insufflé insuffler un essor créatif et intellectuel vraiment unique, sans précédent. Et c'est Henri van de Velde qui va créer ce courant. Et puis il va y avoir aussi Gropius après qui va fonder l'université Bauhaus à Weimar. Et ce courant en fait va révolutionner donc toutes les sphères artistiques, l'architecture évidemment, mais aussi le design, les arts créatifs et scéniques. Et sans qu'on le sache, il a encore un impact dans notre quotidien aujourd'hui. Et donc pour célébrer tous ces objets Bauhaus, eh bien la Thuringe a décidé de leur offrir un musée époustouflant de modernité en plein cœur de Weimar, de la ville. Il ouvre dans 15 jours, c'est le 6 avril, et vous allez pouvoir découvrir 1000 objets sélectionnés hein, sur les 13 000 qui existent, dont celui-ci, messieurs, que je vous passe.
Oui.
Voilà.
Qu'est-ce
alors, pour info, pour les auditeurs, donc, il va falloir que
de
vous
boîte
vous trouviez.
En verre,
une boîte en verre avec des oreilles. Mathieu Charrier vient déjà de péter les oreilles.
C'est une sorte de tupperware.
Alors, on y est
mais
presque.
En verre.
Mais il faut penser que ça a été créé à cette époque-là, hein, quand
c'est
même.
C'est quelque chose pour cuire les œufs.
Bravo. Mais c'est un coquetier. Exactement.
Ah dis donc, c'est pour les œufs d'autruche alors.
C'est un coquetier, c'est
j'aurais
un coquetier.
J'aurais jamais trouvé.
Mais moi non plus.
C'est l'un des plus grands designers allemands, Van Gunfeld, ouais. Hein, qui est très connu pour sa lampe, aussi lampe que vous pourrez voir dans son musée, comme je pense que certains d'entre vous la voient, la célèbre chaise de Marcel Breuer, le berceau de Peter Keller. Donc voilà.
Alors, c'est le musée Bauhaus à Weimar, c'est à voir absolument. Il faut dire quand même un mot, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est le Bauhaus. Qui peut résumer en une phrase le Bauhaus?
Bah c'est en fait une sorte de modernité, d'essayer de rendre,
les premières, moi je vais vous le dire d'un mot, les premières maisons carrées.
Exactement.
Avant que ça devienne dégueulasse. Ouais. Mais les premières magnifiques maisons carrées, comme on voit dans Tintin, qui a donné ensuite la ligne claire et tout ça, avant que ce soit dévoyé, c'est absolument splendide.
Et qui se sont exportées après, hein, parce qu'évidemment, l'école a fermé en 1933 avec les nazis. Ils se sont exportées après, en fait, aux États-Unis. On en retrouve justement à Palm Springs. Bon, je me tais parce qu'il faut que je continue.
Les nazis qui trouvaient que c'était de l'art dégénéré. Mais la Thuringe, ça vaut le coup d'y aller ou pas?
Ah, bah oui. Alors déjà, parce que si vous êtes fan d'architecture, et pas seulement de Bauhaus, mais de modernisme, il y a le grand tour du modernisme qui traverse sans site allemand. Il y en a quand même sur les 130 en Thuringe, aussi parce que c'est une région verte, donc ressourçante, je vous le disais. Le poumon vert de l'Allemagne, grâce à son parc national d'Ainich, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, il y a une dernière chose pour laquelle le voyage vaut le coup, c'est Erfurt, c'est la capitale. Et c'est une ville qui a su préserver son patrimoine, en particulier sa vieille synagogue, avec un trésor de 30 kilos d'objets précieux qui sont exposés. Et puis un pont, le pont des épiciers. C'est un pont en arc avec des habitations. Et c'est le plus ancien édifice de la ville. Il était construit en bois avant d'être reconstruit donc en pierre en 1325. Et figurez-vous que sur ce pont, on trouve aujourd'hui un magasin qui va vous plaire, David. Je crois que vous vouliez être musicien quand vous étiez plus jeune.
Oui.
Voilà.
Mmh.
Eh bien, il existe une boutique d'instruments, mais uniquement réservée aux gauchers. Je ne sais pas si vous êtes gaucher.
Ah, incroyable. Non, parce que je suis allé dans ce pont et je connais très bien.
C'est beau,
mais
hein.
J'ai jamais été, j'ai jamais vu ce.
Ah bah, fallait
cette
regarder.
J'y vais la prochaine fois.
Ah bah, ouais. Allez-y, poussez la porte.
C'est aussi beau que ce que raconte Vanessa.
Ouais, c'est petit, mais
c'est
le centre
petit.
Est sublime. Il y a des canaux, c'est magnifique.
Un hôtel à nous recommander à tous les deux, à Vanessa, à David.
À tous les deux.
La même question. Un hôtel à nous recommander.
Moi, j'en ai un à Weimar, qui est sur la place historique du marché, qui est assez chic, urbain, avec plusieurs prix. C'est l'hôtel Éléphant et propose des packages 3 jours, 2 nuits.
Des packages.
Je vous ai dit package ?
Ouais, des packages.
Je vous le refais.
Non, on n'a pas le temps.
Propose des packages 3 jours, 2 nuits avec une entrée au musée.
Ouais, au moins moi, je vous conseille un hôtel à Heidelberg. Il y a une plaque devant où est marqué « Ici, Goethe n'a jamais dormi
oui. ». Heidelberg, sublime aussi.
Oui.
Pourquoi vous aimez à ce point l'Allemagne ?
Moi, j'adore. Berlin. Je fais de nombreuses tournées pour mes livres. J'adore l'ambiance, j'adore les gens, j'adore la culture
mais
allemande.
Mais ça préexistait.
Oui, c'est vrai que
vous avez
je
dit
raconte
une fois
tout ça dans mon livre Charlotte.
La langue allemande, la plus érotique, c'est la langue allemande.
Toujours. Je trouve ça sublime, la langue allemande.
J'ai compris, ma question était pour quelle raison?
Ça ne s'explique pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la sonorité, de la douceur. Je trouve ça puissant. Je trouve ça à la fois sensuel et très, très puissant.
C'est très dur l'allemand par contre. Pour avoir étudié l'allemand au collège, au lycée, c'est une langue très compliquée.
Mais moi j'aime tellement l'allemand que je veux pas l'apprendre quoi.
Oui, c'est ça.
Je préfère me laisser bercer par les sonorités.
Vous ne conseillez pas de restaurant Vanessa?
Bah non,
ou une fromagerie.
Aujourd'hui, je n'ai pas de restaurant,
une fromagerie,
non pas du tout.
Il y a un petit McDo sur la place du village.
Non, je veux dire pourquoi? Parce que David Fuenkinos, on lui demande si vous aviez une baguette magique, quel serait votre rêve secret. Vous vous souvenez la réponse que vous avez faite au pèlerin? Il a dit en septembre 2018 ouvrir une fromagerie avec la femme que j'aime.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais,
toujours.
Super.
C'est pas mal,
c'est vrai.
Alors, toujours pour la fromagerie ou avec la femme que vous aimez?
Les deux.
Mais c'est pas vrai. Mais c'est pareil. Vous dites qu'on parle de vous et qu'on refasse des questions dans les interviews.
C'était son rêve à elle.
Ah, d'accord.
Ouais.
Ah,
non, c'est vrai que parfois, dans les interviews, on répond un peu n'importe quoi.
Ah, j'ai remarqué.
Mais là, il y avait un fond de vérité.
Ouais. C'était son rêve. Elle n'est plus avec vous ou elle a changé de rêve?
Tout à fait.
Mais elle a changé de rêve?
Non, c'est toujours le même rêve.
D'accord.
Ouais.
On se retrouve au rayon Camembert. Merci beaucoup. Je rappelle, Deux Sœurs, c'est chez Gallimard. L'auteur et l'invité absolument délicieux s'appelle David Fuenquinos. Merci Vanessa Zaza, merci Mathieu Charrier, merci Nicolas Caro de cette bonne humeur que vous avez manifestée tout au long de cette demi-heure culturelle.